Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre à la place des autres? Comment expliquer que certaines personnes arrivent à ressentir nos émotions alors que d'autres éprouvent de la joie quand vous êtes dans la peine ou de la colère quand vous traversez un moment heureux? Mystère de l'empathie et de l'envie que les artistes, les philosophes, les scientifiques ont tenté de percer, de Shakespeare à Henri-Georges Clouzot, de René Girard à Franz de Waal. Nous verrons cet après-midi quels sont les piliers de ces deux pôles opposés, quel est le rôle des neurones miroirs et du cerveau mimétique, comment développer son empathie et museler son envie. Éléments de réponse avec le professeur Jean-Michel Hougourlian et avec le philosophe Alexandre Lacroix. Ma complice cet après-midi, Guillemette Audicino. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour professeur Jean-Michel Hougourlian.
Bonjour Ali, c'est une joie d'être avec vous.
Et moi aussi, vous êtes neuropsychiatre, ancien professeur de psychologie à la Sorbonne, spécialiste de la psychologie mimétique. Vous êtes l'un des disciples du professeur de littérature comparée René Girard. Et après notre troisième cerveau, vous venez de publier chez Plon « Optimiser votre cerveau », sous-titré « Neurones miroirs, le mode d'emploi ». C'est un peu les neurones miroirs pour les nuls, reprendre le titre de la célèbre collection.
Si vous voulez, oui, si vous voulez.
Bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction du mensuel Philosophie Magazine. Alors on va essayer de comprendre les deux pôles contraires que sont l'envie et l'empathie. On va d'abord essayer de comprendre ce qu'est l'empathie, cette aptitude à ressentir ce qu'éprouve l'autre. Pour le grand psychiatre américain Irving Yalom, l'empathie c'est l'outil le plus puissant dont nous disposions pour entrer en relation avec autrui, le ciment des relations humaines. Il apparaît quand ce terme d'empathie, Alexandre Lacroix ?
Alors, il a une histoire assez passionnante parce que, en fait, au départ, c'est un terme allemand. Hein. Il est employé par un philosophe qui s'appelle Robert Fischer, qui en 1873 s'intéresse à la manière dont nous ressentons les œuvres d'art. Qu'est-ce qui fait que devant un tableau, une musique, par extension, devant un très beau paysage, un magnifique coucher de soleil, je sens quelque chose comme à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, c'est pas comme si l'œuvre était simplement à l'extérieur, c'est comme si elle me remuait de l'intérieur. Il invente le mot de Einfühlung, c'est-à-dire Gefühl, c'est le sentiment. Ein, c'est au-dedans. Il y a quelque chose comme un sentiment qui éclot au-dedans de moi quand je suis en contact avec cette œuvre. Donc au départ, c'est esthétique. Et puis, il y a un cap assez important. Enfin, des psychologues ont commencé à travailler avec ce terme, d'Einfühlung, pour se dire, mais finalement, ce qu'on ressent devant l'œuvre d'art, on va le ressentir aussi devant une personne qu'on aime, ou simplement une personne qu'on croise dans la rue et qui souffre, on ressent quelque chose à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui passe. Et puis, le moment décisif pour le terme d'empathie, comment on passe de Einfühlung à empathie, c'est un moment où, en 1909, un psychologue qui s'appelle Edward Titchener, qui est américain, décide de traduire le Einfühlung, pour le faire connaître ce terme et ce concept au public américain, par empathie. À partir de là, le terme devient le centre d'un immense débat en psychologie et en philosophie.
Alors les philosophes du XVIIIe siècle parlaient plutôt de sympathie pour désigner la capacité à se mettre à la place des autres.
Alors il y a eu un moment très intéressant au XVIIIe siècle, avant qu'Emmanuel Kant arrive et dise que la morale est une affaire de raison, si vous voulez, où on s'est dit qu'on pouvait fonder la morale sur les sentiments. Et celui qui allait le plus loin dans le genre, on s'y attend pas, c'est Adam Smith, c'est-à-dire le père fondateur de l'économie classique, de l'économie politique. Il a écrit un livre qui s'appelle « La théorie des sentiments moraux ». Alors l'idée de base, c'est très simple, c'est que si vous voyez quelqu'un, une personne en taper une autre dans la rue, et que vous ne connaissez ni l'une ni l'autre, vous éprouvez immédiatement de l'antipathie pour l'agresseur et de la sympathie pour la victime. Ça se complexifie un petit peu, par exemple, si vous voyez un condamné à mort. Alors, ce sont des exemples qu'ils prennent à l'époque. Vous voyez un condamné à mort. En tant qu'il va être victime, qu'il va être décapité, par exemple, vous éprouvez de la sympathie pour lui et de l'antipathie pour son bureau. Pour son bourreau. Mais en tant que lui, il est lui-même un assassin, vous éprouvez une vive antipathie pour lui et vous éprouvez de la sympathie pour la victime. Autrement dit, vous êtes pris en société dans des conflits de sympathie que vous devez sans cesse arbitrer, et c'est ça la morale. Avoir une conduite morale, c'est arbitrer les conflits de sympathie.
Alors une idée reçue veut que les êtres humains ne sont pas naturellement doués par l'empathie, nous serions spontanément égoïstes. Dans son traité de la nature humaine, vous citiez le philosophe écossais David Hume. David Hume écrit « Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à l'égratignure de mon droit. » Et Descartes se demandait si le fait que on ignore de quoi est fait autrui au dedans, comment est-ce que je peux me mettre à sa place dans ce cas-là?
Oui, Descartes, il y a un passage tout à fait étrange dans ses méditations où il se met à sa fenêtre et il dit « Je vois passer des gens dans la rue et qu'est-ce qui me dit que ce sont vraiment des êtres humains et pas des automates déguisés avec des manteaux et des chapeaux. Je sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais c'est quand même une question inquiétante quand on commence à se la poser. Donc les modernes s'imaginent effectivement que le sujet humain est clos sur lui-même, en quelque sorte seul au monde, et c'est encore cette idée qu'on a quand on dit que l'être humain est fondamentalement égoïste, fermé sur lui-même, clos. Il me semble, enfin moi c'était l'idée de l'article d'ouverture du dossier, qu'on peut argumenter tout à fait au contraire, qu'on est prodigieusement doué pour savoir ce qui se passe dans la tête des autres. C'est-à-dire que nous autres êtres humains sommes capables de reconstituer les pensées, les émotions de ceux qui nous entourent.
Et Jean-Michel Hougourlian, l'une des bases de l'empathie, ce sont les neurones miroirs. L'une des bases physiologiques, scientifiques de cette empathie, ce sont les neurones miroirs. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement ?
Alors je vais y venir, mais je voudrais d'abord dire que l'idée qu'on peut exister seul est absurde. On ne peut jamais exister seul. Seul, nous n'existons pas. Nous sommes dans un rapport permanent avec les autres, sans lequel nous ne pouvons pas nous constituer en tant que tels. C'est la raison pour laquelle, avec René Girard, dès 1978, nous avons forgé le terme de psychologie interdividuelle, relationnelle, c'est-à-dire on a supprimé la notion d'individu. Et on a centré la psychologie sur ce qui se passe entre moi et l'autre, en permanence. Et alors, effectivement, ce qui est extraordinaire dans une vie d'homme, c'est qu'on a vu apparaître, en étant encore vivant, si je puis dire, en 96, avec Rizzolatti, Gallese et nos amis de l'école de Parme, la découverte des neurones miroirs. C'est-à-dire, qu'est-ce que les neurones miroirs ? Alors, les neurones miroirs, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça a été évidemment bien explicité par l'utilisation du PET scan. Si je mets un PET scan sur ma tête, il enregistre les zones de mon cerveau qui vont s'activer si je fais un geste ou un mouvement intentionnel. Alors je me tends mon bras vers le verre d'eau qui est devant moi, je le porte à ma bouche et je déglutis. À ce moment-là, dans mon cerveau, un certain nombre de zones vont s'allumer au PET scan, qui vont traduire cette activité qui vient de se dérouler. Mais vous, Ali, si je vous mets au même moment un PET scan sur la tête, et vous ne faites rien d'autre que me regarder, les mêmes zones vont s'allumer de la même façon dans votre cerveau. En d'autres termes, vous êtes en miroir, en Bluetooth, en Wi-Fi, tout ce que vous voudrez, nous sommes en rapport permanent, nos cerveaux sont permanents, en permanence branchés les uns sur les autres.
Si vous me souriez, en retour, je vais sourire.
Alors de deux choses l'une.
Général.
Je suis en train de vous sourire, vous me souriez. Ou alors, par exemple, je fais une conférence et je descends dans la salle et je tends la main à quelqu'un au premier rang. Il me tend la main, c'est-à-dire il imite mon geste sympathique. Aussitôt, le cerveau mimétique entre en action. Il a répondu à mon geste positivement. Nous sommes amis. Mon cerveau cognitif se met à penser « Ah, c'est quelqu'un d'intelligent, il a compris ce que j'ai dit, etc. » Et mon cerveau émotionnel, c'est mon cerveau limbique, se met à se dire ou à habiller cette relation qui vient de se créer et en se disant « Bon, je suis de bonne humeur, ce garçon ou cette femme est sympathique, et voilà, et tout va bien. » Mais imaginez maintenant que, au lieu de répondre à mon geste sympathique de tendre la main, la personne en face me dit « Écoutez, après toutes les bêtises que je viens d'entendre, je vais pas vous serrer la main. » À ce moment-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi qui vais imiter son geste agressif. Nous allons être en conflit ou en rivalité ou ennemi, mon cerveau émotionnel va se mettre à produire des sentiments négatifs, d'antipathie, de mauvaise humeur, et mon cerveau cognitif va se mettre à se demander mais de quelle façon, de quelle école philosophique ou psychologique sort ce salopard qui me trouve idiot, etc., etc. Et donc je vais justifier. Donc si vous voulez, le premier mouvement est toujours un mouvement mimétique. Et ensuite, ce mouvement mimétique est habillé par le vestiaire émotionnel et coiffé par le vestiaire cognitif.
Alexandre Lacroix.
Oui, en fait, nous avons donc interviewé Vittorio Gallese, qui est l'un des découvreurs des neurones miroirs. La découverte date de 1996. Mais ce qui est intéressant, c'est que avant cette découverte des neurones miroirs, si vous prenez l'exemple, vous voyez un ami qui essaye de planter un clou. Il tape mal et il tape sur son pouce. Il se fait mal. Il dit « aïe ». Les sciences cognitives traditionnelles disaient, comment vous savez qu'il a mal? Vous savez qu'il a mal parce que ça vous est déjà arrivé. Donc vous reconstituez mentalement le processus et vous, ah si, à sa place, j'étais en train de me taper sur le pouce dans la même situation, j'aurais mal, donc il doit avoir mal. Vous faites une déduction, en fait, quelque chose d'assez long. ce que la découverte des neurones miroirs apporte, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par tous ces schémas de déductifs. C'est-à-dire que quand je vois son geste, quand je vois qu'il s'est tapé sur le pouce, quelque chose s'allume dans mon cerveau. J'ai pas besoin de passer par une représentation, par de l'abstraction. C'est immédiat. Donc il y a un lien immédiat et non intermédié par des pensées un peu compliquées entre nous. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes d'une même chair en quelque sorte.
Absolument. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'immédiatement, le cerveau qui est le mien enregistre les mêmes sensations ou les mêmes sentiments que celui que je suis en train de regarder. Et c'est une découverte fondamentale parce qu'elle confirme, si vous voulez, toutes les théories que nous avions élaborées pendant 40 ans avec René Girard, qui avait commencé avec Aristote, qui disait que de tous les animaux sur la planète, le petit anthropos, c'est-à-dire le petit homme, est le plus mimeur. Et c'est que ainsi qu'il acquiert tous ses apprentissages. Et en effet, si vous voulez apprendre à un enfant à dire bonjour papa au moment où la seule solution, c'est de répéter devant lui le mot suffisamment de fois pour qu'il soit amené à vous imiter et à le répéter de mieux en mieux.
Guillemette Audicino.
Oui, mais il y a un petit détail en fait que je comprends pas. Les neurones miroirs, certes. Donc, par exemple, vous tendez la main à un monsieur, il vous tend la main en retour. Ou alors, on voit un type se planter un clou dans le marteau. Enfin, en tout cas, prendre un coup sur la main et on comprend ce qu'il ressent, certes. Mais est-ce que ça, c'est pour autant de l'empathie? C'est-à-dire, est-ce que vraiment, on souffre sincèrement pour la personne qui vient de se donner un coup de marteau? Est-ce qu'on tend la main sincèrement ou par hypocrisie, parce que c'est un réflexe de politesse, ou parce que la personne se dit que vous êtes un professeur très important à fréquenter et que ce serait quand même bête de se fâcher avec vous? Il est où le taux de sincérité et de réel partage d'émotions dans ce coup du miroir?
Alors, je vais vous dire, je crois que le processus imitatif, le processus mimétique, et je dirais laïque et obligatoire. Mais ensuite, il y a l'interprétation. C'est-à-dire que si je me casse la figure, tout le monde dit, n'est-ce pas, que si je suis dans un milieu où tout le monde rit, je vais rire. Très bien. Si je vois quelqu'un rire, je vais rire. D'accord. Mais si je me casse la figure et que je vois quelqu'un rire, je vais pas rire du tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que lui, il a rigolé parce que ça lui a fait plaisir. Et alors, donc le désir mimétique, c'est-à-dire le désir qui est copié sur le désir de l'autre, il y en a deux variétés. La première variété, c'est de copier son désir sur celui de l'autre en disant je voudrais acquérir ce qu'il a. C'est un processus d'envie, mais d'envie, je dirais, positive. Mais il y a l'envie négative, le désir mimétique négatif, qui consiste à dire, il a cette chose, cet objet, ou cette qualité, ou cette fonction, en plus que moi je n'ai pas, eh bien mon seul bonheur serait de l'en déposséder. Et ça, c'est très important. Donc l'empathie n'est pas nécessairement
positive.
Bonne. Elle peut être aussi négative, vous voyez.
C'est ça le point. En fait, ce que nous, on a voulu vraiment déminer complètement, enfin la thèse du dossier qu'on a consacré à l'empathie, c'est que il y a une erreur dans le langage ordinaire. Quand on dit dans le langage ordinaire que quelqu'un il est empathique, c'est qu'il est bon, généreux,
bienveillant,
attentif, bienveillant. L'empathie, en fait, nous en sommes tous capables en tant qu'être humain, mais c'est ce qui nous permet de mener une négociation à bien, par exemple une négociation commerciale. C'est-à-dire que si vous savez où en est l'autre, ce qu'il ressent, ce qu'il est prêt à accepter ou non, vous négociez mieux. C'est ce qui va permettre aussi à un bourreau ou à un tortionnaire d'atteindre l'autre et d'obtenir des aveux. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va très bien résister à la douleur physique, mais vous allez comprendre que si vous lui faites une sorte de chantage, que vous lui dites que vous allez faire du mal à sa sœur ou à sa mère, il va tout lâcher. Comment le bourreau sait ça? Il sait ça parce qu'il rentre dans le psychisme de l'autre, en quelque sorte. Et donc, l'être humain est prodigieusement empathique, mais l'être humain, je dirais, c'est un prédateur empathique. Ça veut dire que un prédateur empathique, c'est-à-dire que le chasseur-cueilleur que nous fûmes, et nous le restons un petit peu parfois, courait par exemple après la biche dans les forêts, si vous voulez, mais en devinant si la biche allait tourner à droite ou à gauche. C'est-à-dire que, en gros, nous utilisons notre empathie pour parvenir à nos fins, donc ça nous rend pas spécialement bons.
Et on reviendra tout à l'heure sur les propos du psychologue et chercheur à l'université Yale, Paul Bloom, qui vous dit dans Philosophie Magazine que les racistes sont en général des gens très empathiques. On y reviendra tout à l'heure. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et je vous propose d'écouter une chanson de 1957, Frank Sinatra.
Come fly with me, let's fly away.
If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. Angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Frank Sinatra, Come Fly With Me.
Un philosophe a dit un jour, lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs.
Grand bien vous fasse.
Alors à verre.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on se demande ce qui nous empêche de nous mettre à la place des autres, en compagnie du neuropsychiatre Jean-Michel Ougourlian et avec le philosophe Alexandre Lacroix. Alexandre Lacroix, j'aimerais que vous évoquiez trois types d'empathie.
Oui, alors pour distinguer un peu les choses, on peut différencier trois sortes d'empathie. Il y a une empathie qui est ce qu'on appelle l'empathie cognitive, c'est la capacité à savoir ce que les autres pensent, quel est leur état mental. On peut déduire d'après leur comportement, en gros, ce qu'ils ont dans la tête. En fait, on est très très bon, nous autres humains, pour lire dans les pensées des autres. C'est-à-dire que, et nous l'utilisons systématiquement. Si vous devez, devant vos collègues, présenter une nouvelle idée, un projet, vous savez à peu près comment ils vont réagir, vous savez qui va adhérer et qui ne va pas adhérer, vous pouvez anticiper assez bien les objections qui seront faites. Si vous devez enseigner à un enfant à résoudre un problème de mathématiques, vous pouvez vous mettre à sa place, c'est-à-dire dans la situation où il ignore la solution, et refaire le chemin qui mène à la solution. Si vous voyez quelqu'un qui met son clignotant devant vous en voiture, d'après ce comportement, vous pouvez très bien déduire qu'il veut tourner, mais si le clignotant est allumé trop longtemps, vous devinez aussi, si vous voulez, qu'il l'a oublié. Donc, c'est-à-dire vous reconstruisez un état mental qui est relativement complexe, qui est celui de la distraction, de l'oubli. Alors, ça, c'est l'empathie cognitive. Il y a une autre empathie, qui est une empathie émotionnelle. Ça, c'est la capacité, si vous voulez, que vous avez à deviner, à comprendre quelles sont les émotions que les autres éprouvent. Vous le faites, évidemment, à travers les expressions faciales, notamment la lecture des émotions de l'autre sur son visage, sur l'expression qu'il a sur son regard est très précise, et pour la plupart nous sommes tout à fait capables de lire les émotions des autres. Et puis il y a un dernier type d'empathie, mais souvent je dirais dans le langage commun, on pense que ça c'est la seule empathie, c'est l'empathie compassionnelle, la compassion. Le fait de véritablement, quand l'autre souffre, ressentir sa douleur. Ça n'a pas grand-chose à voir avec, si vous voulez, l'empathie émotionnelle, parce que l'empathie émotionnelle, ça touche tous les types d'émotions. Vous percevez la colère de l'autre, vous percevez sa froideur, vous percevez... Dans la compassion, on parle bien de la souffrance et de la douleur qui, en quelque sorte, agit sur vous par contagion. Donc, avec ces distinctions, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que le très bon séducteur, par exemple, on vient d'écouter Frank Sinatra, le très bon négociateur, le très bon pédagogue, mais peut-être aussi le sadique ou le pervers, ont accès à l'empathie intellectuelle, cognitive, à l'empathie émotionnelle, mais peut-être chez eux quelque chose peut être bloqué du côté de la compassion. Voilà. Donc ça sert à y voir un peu plus clair dans ces différents mécanismes qui nous lient aux autres.
Guillemette Audicino.
Pardon, mais moi je me souviens de mon niveau en maths quand j'étais plus jeune et quand certaines personnes essayaient de m'expliquer. Tout de suite, j'avais droit, et je pense que beaucoup d'adolescents sont dans ce cas-là, hein. Enfin, c'est incroyable que tu ne comprennes pas, pourtant. Donc, on a affaire à des gens qui, pour le coup-là, sont peut-être un petit peu dénués d'empathie cognitive, parce qu'ils n'arrivent pas à admettre, chez l'autre, une incapacité que eux n'ont pas. C'est-à-dire, on a eu tous des profs qui sont complètement, enfin, sidérés, qu'on ne comprenne pas ce que eux trouvent clair. Donc, c'est que...
Jean-Michel Gourlion, neuropsychiatre.
C'est très très important ce que vous venez de dire, parce que je crois que nous avons trois fonctions cérébrales. Mmh. La première fonction qui entre en action, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fonction mimétique. C'est-à-dire que quelqu'un vous sourit, vous lui souriez ou vous lui souriez pas. Quelqu'un vous tend la main, vous lui tendez la main ou vous ne lui tendez pas, et ainsi de suite. La deuxième fonction, c'est la fonction émotionnel, qui rejoint ce que disait Alexandre Lacroix il y a un instant, de l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire nous avons un cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, qui contient toute une série de structures qui font que nous avons là un réservoir de sentiments, de sensations, d'émotions et d'humeur. Et puis nous avons au-dessus de ça un néocortex, un cerveau cognitif dans lequel nous avons des neurones moteurs, des neurones sensitifs, des neurones sensoriels, des neurones du langage dans le lobe temporal, etc. Donc par conséquent, si vous voulez, je crois que tout cela se met en place à partir du mimétisme premier, si vous voulez. Et il est bien certain que rien ne peut se faire s'il n'y a pas une harmonie de ces trois cerveaux, c'est-à-dire si ces trois cerveaux ne sont pas harmonieusement agencés pour se contrôler mutuellement. Et c'est la raison pour laquelle le professeur de mathématiques ne peut pas vous transmettre son savoir s'il ne vous aime pas, s'il n'est pas bienveillant, s'il n'est pas bienveillant. Et si vous ne l'aimez pas, je peux vous assurer que moi, tous les maîtres que j'ai eus, et j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup, et notamment René Girard, la première chose qui se dessinait, c'était l'affection.
L'affection, oui.
L'affection, l'attirance. Et la première fois que j'ai rencontré René Girard, je ne pouvais pas penser que c'était lui. Moi, je m'imaginais, quand je l'ai rencontré, le gars de l'hôtel m'a dit, mais il se promène sur le trottoir. Et moi, je m'imaginais un vieux monsieur chenu, parce que je me suis dit, c'est un grand professeur, etc. Il doit avoir un petit monsieur chenu avec des lunettes. Et je vois un grand athlète avec beaucoup de cheveux noirs et en pleine forme. Je me dis, ça peut pas être lui. Et il me dit, mais si, c'est lui. Et alors ça a créé tout de suite, on a éclaté de rire tous les deux.
René Girard, l'auteur de La violence et le sacré, de Mensonges romantiques et vérités romanesques, ou encore du bouc émissaire, pour nos auditeurs qui n'ont pas encore lu René Girard. Nos trois cerveaux doivent dialoguer en permanence pour éviter les rivalités, les haines, les jalousies, l'envie, et pour favoriser l'empathie, la coopération, la bienveillance. C'est un dialogue permanent.
Un dialogue permanent qui assure, si vous voulez, d'une part, la santé mentale. Parce que si vous êtes au départ, si vous analysez au départ la relation mimétique, elle peut prendre l'autre comme modèle. À ce moment-là, sympathie, tout ça, c'est bon modèle. Mais elle peut prendre l'autre comme rival. Et enfin, elle peut prendre l'autre comme obstacle. Obstacle, c'est-à-dire, c'est pas possible. C'est impossible. Le rival, on peut encore le combattre. On a peut-être une chance de le vaincre. Mais l'obstacle, c'est fini. Et je vous raconte à ce sujet, si vous permettez, une petite anecdote que j'ai racontée dans un autre livre. Vous avez un soldat russe au temps de l'Union soviétique qui arrive voir son copain Popov et qui lui dit, je sais pas, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais, je suis arrivé rentrer chez moi et j'ai vu le général dans le lit avec ma femme. Il dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai eu de la chance, il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Donc par conséquent, si vous voulez, là c'est l'obstacle absolu, parce que là il n'y a rien à discuter, il n'y a pas à rivaliser, on ne peut pas rivaliser avec son général. Donc moi, c'est l'obstacle absolu.
Peut-on dire que le mouvement mimétique, le désir mimétique fonde toutes les relations humaines, qu'il est à l'origine des actes empathiques les plus généreux, mais également de toutes les sources de discorde?
Absolument, absolument, suivant que ce désir mimétique s'adresse à l'autre en tant que modèle, en tant que rival ou en tant qu'obstacle. Et je dois dire que le mimétisme, on peut en distinguer quatre variétés. Et la première variété, que tout le monde connaît, c'est le mimétisme qui porte sur le paraître, sur le geste. Ça, pour ça, il suffit d'aller voir un spectacle de Laurent Gérard et on est édifié, n'est-ce pas? Bon, la deuxième façon, le deuxième type de mimétisme, c'est celui qui porte sur l'avoir. C'est-à-dire que si vous avez, mon cher Ali, un beau stylo et que je le convoite, à ce moment-là, s'il n'y a qu'un seul stylo,
stylo du service public, vous savez.
nous allons entendre. Mais imaginez maintenant que ce mimétisme qui porte sur l'avoir peut très bien porter sur un avoir partageable. C'est le principe de la publicité, n'est-ce pas? On vous montre par exemple un parfum qui est porté par... Rappelez-vous, Marilyn Monroe, quand elle avait été interrogée, elle avait dit, on lui avait demandé, madame, qu'est-ce que vous portez pour dormir la nuit? Elle avait dit, uniquement Chanel numéro 5. Le lendemain matin, toutes les femmes américaines se précipitaient pour acheter Chanel numéro 5. Elle n'avait jamais respiré, naturellement. La troisième variété, c'est une variété extrêmement connue en psychologie, c'est la l'imitation qui porte sur l'être même du modèle. C'est ce qu'on appelle l'identification avec Freud, etc. Et la quatrième variété, c'est l'imitation qui porte sur le désir, c'est-à-dire sur l'intention. Et d'ailleurs, je me permets de vous rappeler que Vittorio Gallese lui-même m'a raconté que si le geste est un geste anarchique et sans signification, votre cerveau enregistré ne va rien refléter, ne va pas rendre le miroir de mon geste. Mais si mon geste est intentionnel, c'est-à-dire qu'il se dirige vers un objet pour le prendre, à ce moment-là, votre cerveau va réagir. En d'autres termes, votre cerveau ne réagit qu'à l'intentionnalité, c'est-à-dire au désir.
Vittorio Gallese, neuropsychologue, l'un des découvreurs des neurones miroirs. Jean-Michel Gourlion, on parlait tout à l'heure de contagion émotionnelle. Cette contagion peut être positive, mais également négative. Prenons un exemple tiré de votre livre. Un jour, vous faites la queue chez votre poissonnier, une file d'attente interminable qui n'avance pas, et vous sentez autour de vous qu'il y a de l'orage dans l'air, que ça râle, que ça s'agace. Et votre cerveau mimétique se réveille aussitôt et vous pousse instinctivement à manifester votre énervement.
Tout à fait. Ça c'est la première, le premier mouvement, si je puis dire. Mais le deuxième mouvement peut m'amener à dire, bon, si je m'énerve maintenant, ça va encore retarder les choses. Ça, c'est le cerveau cognitif qui commence à analyser et qui dit au cerveau mimétique, écoute, ta première réaction, je la comprends, mais c'est pas la bonne. Donc on va réfléchir, on va faire autrement, etc. Et à ce moment-là, il prend une autre attitude. Et tout ceci, si vous voulez, vient du fait que il doit y avoir un dialogue permanent,
une délibération
permanente entre ces trois cerveaux. Et je crois que c'est la clé de la santé mentale et donc d'un certain confort, d'un certain bonheur, si on veut utiliser un mot à la mode.
Mais avant même ce processus, est-ce qu'il peut pas quand même aussi arriver que avoir un phénomène de mimétisme un peu généralisé, donc quand, dans cette poissonnerie, de voir que tout le monde finalement réagit pareil et finalement négativement, ça crée du lien entre eux, mais est-ce que si on en ressent immédiatement l'effet, disons, toxique, est-ce qu'on peut avant immédiatement se mettre contraire en non-mimétisme, c'est-à-dire en refus de ça?
On est en mimétisme rival.
Ah, mais envie, voilà, c'est ça.
Parce que ça, c'est nous entrons, alors nous quittons la psychologie, je dirais purement personnelle, pour rentrer dans la psychologie collective.
Vous savez que moi, plus il y a des gens qui râlent, et moi j'ai envie de râler en fait.
Si vous êtes dans une foule, votre moi est dépossédé, il est fondu dans la foule, et à ce moment-là, vous criez avec la foule, même si vous êtes cognitivement contre. Et un père jésuite m'avait raconté, jadis, qu'il s'était trouvé à Munich dans une grande manifestation où Adolf Hitler prenait la parole, et que lui, père jésuite, 18 ans de formation, avec cette foule immense qui criait Heil Hitler, s'était mis à crier de la même façon. Et quand il est rentré chez lui, il est tombé à genoux en demandant pardon à Dieu.
Alexandre Lacroix.
En fait, il y a effectivement un vertige. On a parlé de la découverte des neurones miroirs tout à l'heure. On a un vertige avec cette découverte, et les découvreurs le disent eux-mêmes, c'est-à-dire que on a l'impression d'avoir trouvé des clés universelles d'explication du comportement humain. C'est exactement le même vertige qu'on peut avoir quand on lit René Girard, qui nous explique que tout est mimétisme. C'est peut-être là que je trouve qu'il faut essayer de se dire, bon, quelle est l'extension exacte du modèle d'explication qu'on a trouvé? Est-ce que tout est vraiment mimétique? Est-ce que la queue chez le poissonnier, c'est encore un grand moment de désir mimétique? Moi, je ne sais pas, je serais moins catégorique, c'est-à-dire ce qui m'intéresse en tout cas, si vous voulez, c'est de faire passer cette idée que nous pouvons véritablement nous mettre à la place d'autrui. D'ailleurs, Guillemette a raison de dire que cette capacité est variable d'un individu à l'autre. Il y a énormément d'études en psychologie expérimentale où, par exemple, on soumet des photos et on dit aux gens, bah, lisez l'expression qu'il y a sur le visage, heureuse, malheureuse, etc. Et on voit que les gens ont des résultats assez différenciés. Il y a des expériences sur les jeunes délinquants, par exemple, qui montrent que, souvent, chez les adolescents délinquants, il y a très très peu de compassion. Donc, on sait qu'il y a une variabilité suivant les individus. Donc ça, c'est la première chose. Mais encore une fois, cette capacité que nous avons à nous mettre à la place d'autrui ne nous oriente pas tous à avoir le même comportement et ne nous dirige pas tous vers le bien.
Ne me parle pas de sentiments, je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant, derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais le plus fort que je le fais. Je t'ai tellement regardé sans rien dire, j'aurais pu compter tous tes atouts. Je voudrais m'en aller mais j'ai rien à fuir, j'étais dans la peau comme un hématome. Qui sait réparer les gens qui se brisent? Personne ne voit mes yeux qui s'épuisent. Car à force de croire, j'oublie que souvent il me faut. Pour ne pas mourir sur ta toile, j'ai fait mettre à tes yeux des aimants. N'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, évidemment. Identique, c'est la photocode, on ne peut compter que sur nos doigts. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois. Je t'ai tellement regardé sans rien dire, j'aurais pu compter tout.
D'écouter l'impératrice qui interprétait Emma Thome.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et cet après-midi, on se demande ce qui nous empêche de nous mettre à la place des autres en compagnie du neuropsychiatre Jean-Michel Hougourlian et avec le philosophe Alexandre Lacroix.
L'empathie, la capacité à se mettre à la place des autres, à les comprendre et peut-être à les aider.
Vous croyez qu'ils m'écouteraient ?
Alors ça, c'est caractéristique de la condition humaine.
Oh, tu sais, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Si on était, vous et moi, dans une situation difficile, je partagerais mon pain, vous partageriez votre eau, même si on était ennemis.
Dans une situation tendue, quand tu parles fermement avec un calibre en pogne, personne ne conteste.
Le développement de l'empathie n'est pas accessible à tout le monde. Pour avoir le plaisir de découvrir le monde mental d'un autre, c'est-à-dire le fondement de la morale, il faut soi-même être sécurisé.
Oh là là, le pauvre. Oh, le pauvre. Il tremble comme une feuille.
Allô ? Non, elle ne peut pas répondre. Elle a les mains prises.
Il doit être complètement traumatisé. Mais regardez comme il tremble.
Bah, elle a un oiseau dans les mains.
Un oiseau ?
Bah, elle l'a trouvé par terre.
Ouais.
Parce que il était pas bien.
Quand on parle, on est contraint de faire un tour de parole. C'est-à-dire que on ne peut pas se synchroniser. Il faut qu'on soit harmonisé, alternatif.
The weather is nice.
The.
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 Yes, very good.
The. The.
Yes.
The.
Okay.
V.
La deuxième prévention, c'est la culture. C'est-à-dire que dans tous les pays qui ont développé une culture, on voit qu'on peut faire passer des messages et qu'on évite énormément de tragédies.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, j'en pense que je suis content pour vous, mais à partir du moment où c'est pas le mien, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ?
Il finira tout seul.
Mais tout le monde finit tout seul, mon vieux, tout le monde.
Medley signé de la très empathique Claire Destacan. Jean-Michel Hougourlian, je rappelle que vous êtes neuropsychiatre. L'empathie, c'est un puissant outil pour entrer en relation avec les autres, mais la haine, l'envie le sont également.
Bien sûr, mais tout ça dépend de votre relation mimétique. Si votre relation mimétique est une relation rivale, évidemment, vous avez de la haine.
Mais pourquoi le cerveau de certains est bloqué sur le mode rival ? Chez certains, c'est le mimétisme négatif qui l'emporte sur le mimétisme positif ?
Absolument, mais ça vous conduit vers la maladie mentale, parce que la rivalité vous conduit vers la justification de cette rivalité, et cette justification de cette rivalité, ça s'exprime en névrose, en psychose et en toutes sortes de maladies mentales, en perversion et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et pourquoi est-on bloqué ? Certains sont bloqués sur ce mode rival qui mène à l'envie, à la colère,
Bloqués. Alors c'est là justement qu'on peut avoir plus différentes théories. Certains sont bloqués parce que dans leur enfance, ils ont été habitués en quelque sorte à voir mimétiquement leurs parents s'engueuler ou se taper dessus, ou parce qu'ils ont eux-mêmes été victimes de violence ou de mauvais traitements, et donc par conséquent, ils ont pris ce pli de prendre l'autre pour rival systématiquement ou pour obstacle. Mais je crois qu'il y a aussi une chose, c'est que pour rejoindre ce que disait Alexandre Lacroix tout à l'heure, je crois qu'il y a trois variétés d'intelligence. Enfin, on a jusqu'à présent pensé, pendant longtemps, qu'il n'y avait qu'une variété, c'était l'intelligence intellectuelle, qu'on mesurait par le QI, le quotient intellectuel. Et puis est arrivé Damasio, Ledoux, etc., tous les travaux qui ont eu lieu, et on a dit non, il y a un quotient émotionnel, une intelligence émotionnelle. Et moi, je pense qu'il y a aussi une intelligence mimétique qui peut être développée, mais qui peut être développée par une relation que j'appellerais presque à la limite psychothérapique, ou progressivement initiatique.
C'est quoi exactement l'intelligence mimétique ?
L'intelligence mimétique, c'est celle qui consiste à ne pas se précipiter sur son premier mouvement mimétique, si vous voulez. De manière à ce que, justement, comme vous disiez très justement tout à l'heure, vous ne soyez pas systématiquement rival, ou systématiquement... Parce que regardez, si vous regardez le mimétisme tel qu'il se présente, vous voyez très bien que ça pose un problème énorme, c'est celui de la liberté. Si vous êtes forcé d'imiter, où se trouve votre liberté ? Eh bien, il n'y a qu'un seul interstice de liberté, c'est le choix du modèle.
Comment apprendre à contrôler ces mouvements de mimétisme négatif qui m'empêchent de me mettre à la place de l'autre, qui empêchent l'empathie ?
Qui empêche l'empathie, non, ou qui vous donne une empathie négative. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous mettre à la place de l'autre. Dans le tortionnaire djihadiste ou le tortionnaire nazi, lorsqu'il voit quelqu'un pousser des hurlements, il se dit « chic, il va parler, quelle merveille, je suis ravi de lui faire du mal, et si je peux faire plus, ça sera encore mieux ».
Alexandre Lacroix.
Oui, tout à fait. Alors pour notre dossier, moi j'ai interviewé un psychologue américain qui a écrit un livre qui s'appelle Contre l'empathie.
C'est Paul Bloom.
Paul Bloom. Donc c'est un chercheur en sciences cognitives. Il a mené beaucoup d'expériences et il en tire des conclusions ravageuses. Son livre n'est pas traduit, mais Contre l'empathie, notamment ce qu'il a montré, il y a des expériences assez amusantes où quand quelqu'un vous ressemble physiquement, vous avez plus d'empathie avec lui. Alors ça inclut à la fois le style vestimentaire, c'est-à-dire que dans les expériences on montre que vous allez venir plus facilement en aide si vous êtes en t-shirt et en short à quelqu'un qui est en t-shirt et en short qu'à un type en costard-cravate qui aurait le même besoin dans la rue comme ça, mais également vous allez venir plus facilement en aide à quelqu'un qui est du même groupe ethnique que vous. Donc la couleur de peau est un déterminant de l'empathie, donc là on arrive dans des choses plus sombres. C'est ce qui permet d'ailleurs à Paul Bloom de dire que les racistes peuvent être empathiques, c'est-à-dire que parce que ce sont des gens qui se sentent fortement appartenir à leur communauté ethnique, ils ont seulement une empathie différenciée suivant
la géométrie variable.
Mais en fait, ce que montre aussi Paul Bloom, c'est que suivant les rôles et la distribution des rôles sociaux, par exemple, si vous jouez au foot et que quelqu'un se blesse dans l'équipe adverse, vous n'avez aucune empathie. Il a mal. Si c'est le capitaine, mais peut-être que vous allez pas, tant mieux. C'est-à-dire ce qui va vous arriver, en fait, c'est que la rivalité, la distribution des rôles sociaux va parfois inhiber votre empathie, voire l'inverser. Même chose, par exemple, pour prendre un exemple d'actualité, mais que cite Paul Bloom, on a fait des mesures sur l'empathie entre manifestants et policiers. dans une manifestation un peu heurtée. Les manifestants, par exemple, ont une grande empathie pour un autre manifestant qui se fait frapper, mais aucune empathie pour un policier qui se fait frapper. Donc, dès qu'on entre dans le conflit, dans la rivalité, nos mécanismes d'empathie, en quelque sorte, sont directement inhibés. Donc, vous voyez qu'il y a tout un faisceau d'informations qui sont données par ces expériences, qui nous montrent que l'empathie n'est pas une clé universelle, c'est certainement pas une clé d'un comportement toujours bénéfique, généreux, bien orienté. Elle est biaisée, elle est profondément biaisée, et en plus, elle peut servir à des fins, à faire le mal. Le sadique se sert de son empathie pour comprendre comment infliger de la douleur ou de la souffrance morale.
Justement, en question de Magali sur notre page Facebook, pourrait-on alors dire que les manipulateurs sont des génies de l'empathie, Jean-Michel Augourlian ?
Des génies, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais ce sont des gens qui sont très très entraînés. Très entraîné à une certaine forme, à une certaine forme de d'analyse des réactions des autres sur le plan émotionnel.
Un très bon commercial, quelqu'un qui a le génie du commerce, qui peut vous vendre n'importe quoi. Ma grand-mère disait de certaines personnes, celui-là, il pourrait te vendre des pierres. Vous voyez bien ce type de personnes-là. Ben, ce sont des génies ou de talentueuses empathiques.
Mais est-ce qu'il y a aussi certaines personnes, parce qu'on parle là de ceux qui en sont totalement dénués, ceux qui s'en servent positivement ou négativement, mais est-ce qu'il y a des gens qui résistent à l'empathie ? Ouais. C'est-à-dire parce que l'empathie, ça veut dire comprendre l'autre, mais si on comprend l'autre, il y a peut-être un risque, mot que je mets entre guillemets, à être compris. Et il y a des gens qui ne veulent pas être compris parce qu'ils ont peur, dans ce sens-là, d'être dominés. Ouais. Donc est-ce que des gens, comme ça, assèchent volontairement leur empathie pour rester, disons, indépendant, ou en tout cas ne jamais tomber sous la coupe de personne?
Alors, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec vous. La seule chose, c'est que vous semblez dire qu'à ce moment-là, c'est un assèchement volontaire. Je ne suis pas sûr que ce soit volontaire. Regardez, par exemple, les autistes n'ont pas d'empathie. Les autistes n'ont pas, en quelque sorte, d'émotion. Ils n'ont qu'une... Les Asperger, par exemple, ont un développement cognitif formidable, mais ils n'ont pas d'empathie émotionnelle avec les autres. Mais ce n'est pas volontaire, c'est pas de leur propre volonté. C'est ainsi que est constitué leur cerveau.
Alors, on parle aussi d'autres choses. Nous, on est allé faire une enquête auprès de gens qui sont des personnels du soin. On est allé voir une employée des pompes funèbres et un anthropologue sur des terrains difficiles. Donc, tous ces métiers...
Ils éteignent un peu leur empathie.
Comportent un risque. Tous les métiers de l'ordre de l'humanitaire, de l'entraide, du soin, du médical, comportent un risque d'être avalé par la souffrance à laquelle on assiste. Si vous êtes infirmier dans une unité de soins palliatifs où il y a peu d'espoir et vous devez accompagner des gens vers la mort, vous risquez d'être en quelque sorte pris dans une spirale empathique qui va vous détruire. Et donc il y a un psychologue qui s'appelle Charles Figley, qui au début des années 90 a proposé un terme qui est intéressant, c'est l'idée d'une fatigue compassionnelle. Il y a, pour les personnels soignants, pour les humanitaires, il y a un risque de fatigue compassionnelle. Et effectivement, dans ce cas-là, il faut de manière tout à fait consciente et professionnelle mettre en place des sortes de barrières rationnelles, de protection de soi, pour ne pas se laisser complètement dévorer par sa propre compassion.
Et Isabelle nous dit sur notre page Facebook, en tant qu'infirmière, il me semble plus important d'être bienveillante qu'empathique. Jean-Michel Gourion.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, moi, je dois vous dire que toute mon expérience longue de psychiatre m'a amené à penser que, si vous voulez, si je voyais, mettons, 10 patients par jour, si chaque fois je me laissais entraîner chez celui qui est euphorique et qui chante dans la chanson, chez celui qui est déprimé dans la dépression, non, au contraire, je suis là pour, au contraire, essayer de tempérer ces excès. Donc je dois faire un énorme effort sur moi-même. Et c'est tout un entraînement. Ce n'est pas facile. Parce que on a tendance, justement, devant quelqu'un qui pleure qui vous raconte un malheur épouvantable. J'ai perdu mon fils dans un accident de voiture. Ben vous êtes vous-même effondré. Et à ce moment-là, comment faire pour sortir un petit peu, pour essayer de le tirer, au contraire, hors de son désespoir?
Oh, la petite s'est fâchée, il faudrait un torchon avec de l'eau chaude.
Elle peut pas venir le chercher elle-même, son torchon, non?
Et voilà. Non mais, est-ce que tu as observé le numéro permanent de cette fille?
Non bah ça, elle hésite pas une seconde, hein.
Ah, cette jupe, râle, bonbon, là, mais c'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation, c'est pas normal. Elle se coiffe, elle se décoiffe astucieusement là toutes les 5 secondes, elle parle avec une voix d'enfant, elle rit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. C'est écœurant ce cinéma. En plus, je me fiche éperdument de ces simagrées ou de la façon dont elle s'habille. Mais si c'était pas tout cela, hypnotisé, fasciné. On dirait des lapins dans les phares d'une voiture. Franchement, avec ton mari, elle est quasiment obscène. Je l'aurais giflé, moi, à ta place. Hein.
Zabou, très envieuse hein, dans Cuisine et Dépendance. Alors, l'envie, selon le Littré, c'est le sentiment de haine et de chagrin à la vue de ce qui est le bien d'autrui, le jaloux est voisin du rival, l'envieux est voisin de l'ennemi. Comment on explique cette colère envieuse qui empêche de se mettre à la place de l'autre, d'être bienveillant, d'être sympathique? Non, comment l'expliquer, Jean-Michel Hougourlian?
Le désir mimétique se décline, je dirais, du matin au soir et du soir au matin, partout, en envie et en jalousie. La jalousie, je dirais, pour simplifier, c'est si vous avez une voiture ou si vous avez une très jolie femme, vous êtes jaloux parce que si vous voyez quelqu'un d'autre s'y intéresser de trop près, vous inquiétez. Et donc ça déclenche un sentiment qu'on appelle la jalousie, qui peut être un minima et qui peut être maximum, comme par exemple chez Othello, qui finit par tuer la femme qu'il aime pour en déposséder le rival possible, potentiel, qui n'existe pas. Mais ça c'est disons la jalousie. Mais l'envie, non. L'envie, c'est le fait de voir quelqu'un d'autre posséder quelque chose que vous n'avez pas, et ne pouvant pas l'avoir vous-même, par exemple son prestige, son pouvoir, sa beauté,
la beauté là, de la jeune femme, hein, beauté, qu'on entend dans l'extrait.
Voilà. À ce moment-là, vous souhaitez l'en déposséder. Il en dépossédé.
Comment maîtriser le feu de nos colères envieuses et comment développer la sympathie, l'empathie bienveillante? Comment on s'y prend? Vous donnez quelques pistes dans votre livre, Jean-Michel Hougourlian.
Ben oui, mais vous savez, ça, c'est, je dirais que, en fait, il faut changer, en psychologie, en psychiatrie, il faut changer de perspective. Et au lieu de chercher à, vous savez, le contraire de la folie, ce n'est pas la santé mentale, d'après moi. Le contraire de la folie, c'est la sagesse. Et c'est une recherche de sagesse vers laquelle il faut s'acheminer. Parce qu'au fond, tout ça, c'est une démarche initiatique de changement personnel. Il faut se changer progressivement pour arriver à une forme de sagesse.
À titre personnel, vous-même, vous vous employez à susciter des atmosphères apaisées, vous l'expliquez dans votre livre, grâce à la psychologie mimétique. Vous pratiquez des sports exigeants, le rire, la détente, la prise de recul. Et pour vous, il s'agit d'une gymnastique pour nos neurones.
Absolument, parce que c'est un effort que je fais, et je dois dire que si vous arrivez quelqu'un qui est en face de vous, dans un état, disons, dépressif ou anxieux, etc., si vous arrivez à entraîner le rire chez cette personne à propos justement de son problème, vous avez gagné.
Un rire moqueur, hein, ni ricaneur.
Non, ce n'est pas le rire moqueur, ce n'est pas le rire qui expulse, ce n'est pas le rire méprisant, ce n'est pas le rire sadique ni méchant, c'est le rire empathique, c'est-à-dire que vous entraînez le rire chez l'autre, et là, à ce moment-là, vous avez gagné beaucoup.
Et puis pour vous, il est important de lâcher prise sur ce qui n'en vaut pas la peine, de cultiver son jardin, développer l'essentiel, c'est-à-dire le rire, la bienveillance, la coopération, l'amour.
C'est la philosophie de Voltaire. Cultiver son jardin, c'est ne pas convoiter le jardin des autres, c'est-à-dire se désirer, continuer à désirer ce que l'on a, parce que le désir mimétique vous condamne à ne désirer que ce que vous n'avez pas, c'est-à-dire ce que l'autre a. Et la sagesse vous conduit à penser que si vous continuez à désirer ce que vous avez déjà, à ce moment-là, vous êtes un sage et vous êtes heureux.
Et puis lâcher prise hein, sur ce qui n'en vaut pas la peine.
Bien sûr. Lâcher prise.
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que je vois se dessiner une division des tâches assez intéressante. Si psychiquement vous allez mal, que vous êtes malade, que il y a des psychologues, il y a peut-être des psychiatres, quand vous êtes malade, que vous n'allez pas bien, qu'il y a un dysfonctionnement, une psychopathologie. Quand vous allez bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est là que la philosophie intervient. Je dirais que le bon partage des rôles, à mon avis, c'est que le psychologue, le psychiatre sont tout à fait sur leur terrain pour vous accompagner quand vous êtes malade. Mais quand vous allez bien psychiquement, il y a encore plein de problèmes. Le problème de l'amour, de la relation au monde, de la relation que vous avez avec votre vieillissement, avec la mort, avec des deuils qui vous hantent peut-être. Il y a encore plein de problèmes pour l'homme en bonne santé. Comment affronter ces questions en fait existentielles si centrales sans aller chez un médecin ? c'est-à-dire sans aller consulter. Eh bien, à mon sens, c'est la fonction même de la philosophie que de nous permettre de réfléchir à ces questions, d'y réfléchir pour progresser, pour peut-être pour produire un effort sur soi,
d'avoir cette prise de recul.
Clarté, d'abord pour produire de la clarté, c'est-à-dire pour voir plus clairement ce que c'est que la condition humaine, tout simplement, parce que la santé, ça n'est pas un bien-être permanent ni un bonheur permanent, ça n'est pas une fête de tous les jours, c'est aussi se coltiner ces questions sérieuses qu'on ne peut pas évacuer, que sont le deuil, la séparation, la perte.
Merci infiniment Jean-Michel Hougourlian et Alexandre Lacroix d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur l'appli et sur le site de France Inter. Demain, le bonheur selon Daniel Pénac.